Radio Kapi.
Quelle attitude de part et d'autre entre services de sécurité, agents de l'ordre et journalistes vu les réalités sécuritaires de la région de Beni? Cette question a fait l'objet d'une table ronde organisée hier à Beni par l'ONG Réseau des médias pour le développement REMED. À Lubumbashi, cette campagne gratuite pour redonner du sourire aux enfants souffrant de bec de lièvre. Pendant 5 jours, 15 enfants ont été opérés avec succès aux cliniques universitaires de Lubumbashi, œuvre du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences en collaboration avec l'opération Smile. Et puis, l'invité de ce midi, Richard Amalvi, président de la Fondation Brazzaville, ONG qui regroupe quelques pays africains. Après la pré-COP 27 tenue cette semaine à Kinshasa, il nous parle du Fonds bleu pour le bassin du Congo, remis aux acteurs africains pour une gestion autonome. Madame, Messieurs, bonjour. Journaliste dans le contexte de l'état de siège, ce que les forces armées attendent des professionnels des médias et ce que les journalistes attendent des services de sécurité et de l'ordre, c'est autour de ce thème que certains journalistes et les autorités sécuritaires et de l'ordre ont échangé vendredi dans la ville de Beni. C'est l'ONG Réseau des médias pour le développement REMED qui a organisé cette activité. Reportage de Beni, rendu ici par Piro Elamenji.
L'objectif de cette table ronde était de partager sur l'attitude à prendre des parts et d'autres entre services de sécurité, agents de l'ordre et journalistes, compte tenu de la mission dévolue à chacun vu les réalités sécuritaires de la région. A expliqué Jean-Baptiste Kambala Kiana, gestionnaire du REMED UNESCO.
Cette table ronde a comme objectif de réduire les risques que peuvent courir les journalistes et les exercices de leur métier dans le cadre de la sécurité et la protection juridique. C'est urgent, non seulement parce que la zone est dans l'état de siège, mais aussi parce que nous sommes dans des contextes de conflits et de guerres dans plusieurs territoires.
Les médias de Beni rendent un service louable dans l'accompagnement des opérations militaires en cours dans la zone. Cependant, les journalistes ne doivent que se fier aux sources sécuritaires avant toute livraison d'une information sécuritaire, ont fait savoir le capitaine Anthony Mualushaï et Nasson Mourara, respectivement, porte-parole des opérations Sokola 1 et de la police de la ville de Beni. Les journalistes qui ont pris part à cette table ronde estime que de telles activités doivent être organisées régulièrement pour maintenir un bon climat de communication entre autorités et professionnels des médias.
Surtout que nous sommes pendant l'état de siège, nous avons appris comment travailler encore pour améliorer donc la collaboration entre journalistes, les éléments FARDC, également la police.
Il faut dire que ces mêmes activités ont été organisées à Goma, Rutshuru, Lubero et Butembo.
Province du Haut-Touélé, cette bonne nouvelle, une première vague des Mbororo a commencé à se retirer du centre du territoire de Niangara. Depuis hier, il se dirigerait vers la localité de Nambia, à une trentaine de kilomètres de là. Des manifestations populaires organisées par la société civile locale seraient l'une des raisons du retrait de ces éleveurs nomades de Niangara Centre notamment. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Plus ou moins 200 éleveurs Mbororo, jusque-là cantonnés à Niangara Centre et ses environs, se sont retirés de ces lieux. Ce retrait fait suite à diverses manifestations organisées par la société civile pour exiger leur départ de cette entité. En effet, cette structure citoyenne a décrété deux journées ville morte lundi et mardi dernier. 48 heures après, les femmes sont descendues dans la rue pour faire entendre aussi leur voix. Pour le président de la société civile, Bienvenue Agassa, ce retrait n'est qu'un sursis à l'insécurité causée par ses éleveurs dans leur milieu, puisque Nambia où Mbororo se retire est une chefferie de Niangara. Il faut, dit-il, une solution durable parce que les autorités locales sont incapables de les chasser.
Ce n'est pas une solution durable, c'est pourquoi nous sommes en train d'appeler le gouvernement à pouvoir prendre des mesures pour qu'ils puissent s'en aller de très loin.
Pour sa part, l'administrateur du territoire de Niangara, refutant le laxisme dont il est taxé face au Mbororo, déclare qu'il est incompétent de les faire partir de son entité. Cela relève du pouvoir du gouvernement. Gouvernement central, souligne-t-il. Rappelons que la semaine dernière, un homme en provenance du Siro a été tué par balle par de supposés Mbororo alors qu'il était en train de marchander le prix d'une bête à ramener chez lui. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
santé. Je vous le disais en titre, 15 enfants souffrant de fente labio-palatine appelée bec de lièvre ont été opérés pendant 15 jours, 5 jours avec succès aux cliniques universitaires de Lubumbashi. C'est l'œuvre du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences en collaboration avec l'opération Smile. L'opération s'est faite gratuitement. Pour la circonstance, ces enfants sont venus de Kolwezi et Kisenge dans le Lualaba, Lubumbashi, Kasumbalesa, Pueto et Sakania pour le Haut-Katanga. Pour le coordonnateur du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences, cette campagne vise à redonner du sourire aux enfants et soulager leurs parents. Docteur Forman Mabala explique au micro de Jean Gandou.
Nous voulons que ces enfants puissent être réintégrés dans la société, que leurs parents ne puissent pas se sentir marginalisés ou rejetés par les uns ou les autres. Or, ce sont des malformations qui surviennent comme ça de façon sporadique suite à certains facteurs que nous connaissons. Alors, nous voulons donner la chance à ces enfants de récupérer leur beauté, de récupérer leur sourire, afin d'être réintégrés dans la société, mais cette fois-là, par une équipe purement congolaise. Dans un premier temps, le premier lot, c'est des 15 enfants. Les interventions sont passées avec succès. Vous savez que les interventions de nourrissons, nouveau-nés, enfants, ce sont des interventions très délicates et ça nécessite une dextérité et ça a donné quand même un élan pour que nous puissions encore progresser. Et nous allons continuer avec les deuxièmes lots dans l'objectif d'atteindre pour toute une année une affaire de 240 patients. Par rapport aux moyens qui sont mis à notre disposition, d'ici décembre, nous en aurons opéré 60. Mais la majorité, c'était les nourrissons de 6 mois à une année.
Par ailleurs, environ 2400 enfants en RDC ont subi la chirurgie des fentes labiales et palatines, dit bec de lièvre, de 2008 à ce jour. Ces chiffres ont été fournis par le point focal de l'ONG Smile Toen à l'occasion de la célébration le 7 octobre de la Journée mondiale du sourire. Cette ONG, en collaboration avec Île Africa de Goma et plusieurs autres hôpitaux, ont fourni aux professionnels de la santé locaux une formation, un financement et des ressources pour réaliser une chirurgie de fente 100% gratuite et des soins complets aux enfants bénéficiaires. Sylvain Kuiratoué, coordonnateur de ce projet auprès de l'hôpital Île Africa, apporte ici des précisions au micro de Mathieu Ilunga.
Nous sommes en train de prendre en charge les malades avec fente labiale et palatine qu'on appelle communément bec de lièvre. Nous faisons face à beaucoup de difficultés. Il y a certaines coutumes qui estiment qu'une femme met au monde un enfant avec pareille malformation comme mauvais sort qui lui a été jeté. D'autres qui estiment que la fente labiale et palatine n'est pas opérable et que s'il doit amener son enfant pour la chirurgie, il peut en mourir. Donc par conséquent, nous demandons aux autorités politico-administratives et ecclésiastiques, mais aussi les leaders communautaires, de nous aider à sensibiliser les malades et de leur montrer que la fente labiale et palatine, elle est curable. Avec l'évolution de la médecine, pour le moment, nous le faisons vraiment en toute sécurité. Pour les enfants, ça ne prend que 45 minutes et puis juste 5 minutes pour l'enfant de se réveiller. Et dans les 60 minutes, l'enfant va commencer à téter ou prendre du jus, ça problème. Et nos soucis par rapport au déplacement de malades, mais aussi ceux qui vivent dans les faits forts, qui ne savent pas que la pathologie est opérable. Donc nous demandons aux organisations nationales et internationales qui interviennent sur le terrain de conduire directement tous ces malades dans différents centres de traitement.
Direction Kasaï Central. Le gouverneur de province a lancé hier à partir de la commune rurale de Matamba le programme de développement de 145 territoires mis en place par le gouvernement congolais. Il est évalué à 1,66 milliards de dollars américains et consiste en la construction des centres de santé, écoles, routes, ponts et d'autres infrastructures. François Kadima nous en parle.
Le programme de développement local de 145 territoires a été mis en place par le gouvernement congolais dans le souci de transformer les conditions de vie des populations rurales à travers les infrastructures et les services sociaux de base. Au Kasaï Central, il touchera le 5 territoires. Le gouverneur de province qui a lancé ce programme a promis de s'impliquer pour sa réussite et tient à l'utilisation de la main d'œuvre locale. John Kabeya.
La population centre-kasaïenne doit bénéficier quelque chose avec le grand programme que le chef de l'État a lancé de 145 territoires. C'est un grand chantier. Accepté pour une autre main d'œuvre qualifiée, mais la grande partie de la main d'œuvre Donc elle doit être recrutée sur place.
Le bureau central de coordination est maître d'ouvrage dans ce projet. En croire Jean-François Malangou, coordonnateur provincial du BCECO, 6 agences d'exécution ont été recrutées et elles se sont déjà engagées pour le travail sur terrain.
Les agences locales d'exécution s'étaient déjà déployées, qui sont réparties dans les territoires de Dimbelenge, de Luisa, de Dibaya et de Kazoum.
Ce programme de développement local de 147 territoires est financé par le gouvernement congolais, qui n'exclut pas la sollicitation de partenaires. Selon la répartition, chaque territoire est censé bénéficier en moyenne d'un paquet d'investissement de 10 millions de dollars américains. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Kasaï Oriental, la première planche a été posée hier en Mbujimayi pour les travaux d'asphaltage de l'avenue Lumumba, longue de près d'un kilomètre 500. Elle sépare les communes de Dioulou et de la Mouya. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage OVD devant une foule nombreuse. Ces travaux rentrent dans le cadre de la modernisation et réhabilitation de près de 25 kilomètres de route du projet Chilejelou. Esther Nalafina, reportage.
L'avenue Lumumba vient d'être revêtue de la couche de roulement en béton bitumineux. Les travaux ont débuté ce vendredi à la mi-journée. C'est la première fois que cette avenue accueille l'asphalte. Pour l'Office des voiries et drainage, ces travaux sont dans une phase d'essai. Ingénieur Jean-Félix Mutombo, chef de service technique à l'OVD.
Aujourd'hui, nous avons prévu d'abord faire comme planche d'essai sur plus ou moins 150 mètres. Donc dans 2 jours, le laboratoire va nous confirmer si la composition est bonne et on va continuer.
De part et d'autre de l'avenue, plusieurs habitants de Mbujimayi venus nous contempler les travaux n'ont pas hésité de manifester leur foi.
Je suis surprise. J'étais au niveau du marché. On m'a appelé qu'il y a le travail qui s'est fait au niveau de l'avenue Lumumba. Et je suis arrivée, je vis ce qui s'est fait vraiment. J'ai une grande joie que je ne peux pas même exprimer.
Je suis très ému, agréablement touché. Nous vivons ce qui se vivait ailleurs. Maintenant là, c'est la modernité. Merci à l'OVD parce qu'il s'inscrit dans l'approche qualité. Voilà, ça, ce sont des infrastructures routières.
D'autres, par contre, ont exprimé leur gratitude au chef de l'État.
Nous remercions sincèrement son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous lui demandons qu'il puisse les faire dans tous les 26 provinces.
Signalons que c'est depuis le mois de septembre dernier que l'Office des voiries et drainage effectue des travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine à une vitesse de croisière. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Autre nouvelle, 5 chefs d'établissement scolaire de Kalemie sont suspendus depuis la rentrée scolaire dans la province éducationnelle Tanganyika 1. C'est confiant ce samedi à Radio Kapi. Le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique indique que ses responsables d'école sont accusés notamment de vendre illégalement des fournitures scolaires. Grégory Boloma annonce que la traque contre les chefs d'établissement qui ne respectent pas les instructions de la hiérarchie va se poursuivre. Le directeur provincial de l'EPST au Tanganyika le dit au micro de Paulin Munanga.
Quand nous sommes passés dans des établissements scolaires, nous avons constaté le récidivisme de la part de certains chefs d'établissement qui brillaient par l'inobservance des instructions officielles. Par exemple, nous avons la lettre du 22 septembre de l'année en cours portant comme objet interdiction de la vente des objets scolaires dans des écoles. Nous sommes allés à l'Institut Kankomba. Le préfet des études est en train d'exceller avec vente des cahiers de communication, journal de classe, les ketchs, les uniformes, etc. Ce qui était interdit par la lettre de la hiérarchie. Donc je ne pouvais pas rester insensible. Il fallait prendre des mesures coercitives. Même chose à l'ITC Maïtou. C'est le préfet des études et des études techniques et sociales excellait aussi dans ses aventures. La révérende sœur de l'épée Katharina Ben, trop récidiviste, même l'année passée, elle était sous sanction. Mais cette fois-ci, dès le début même, elle faisait monnayer les inscriptions. Or, vous connaissez au primaire, les inscriptions sont gratuites. Mais cette révérende-là n'a pas voulu observer.
Et puis, les initiés de la Constitution, professeurs constitutionnalistes, sont accusés par des universitaires d'avoir laissé passer une constitution rédigée de l'étranger et imposée à la RDC. C'est faux, nous avons une bonne constitution, mais après ces 16 ans, elle peut faire l'objet des réajustements, ont rétorqué les constitutionnalistes face aux étudiants. C'était hier à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, au cours d'une conférence scientifique avec un débat très animé, conférence axée sur les changements anticonstitutionnels des régimes en Afrique. Plusieurs professeurs de l'UNIKIN et d'Afrique ont animé ce débat, scruté les causes de l'instabilité permanente des institutions politiques en Afrique et préconisé des solutions. Reportage de Jeff Ngoy Mulunda.
Est-ce que notre constitution n'est qu'un griffon d'un corps étranger? Est-elle la petite sœur de la constitution française? Les initiés répondent. André Mbata.
Cette constitution n'est pas un corps étranger. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez le préambule, nous, peuple congolais, l'avons adopté.
Le doyen de la faculté de droit, Jean-Louis Essambo.
Notre constitution n'est pas une petite sœur de la constitution française. Promulguée en 2006, la France a modifié la sienne en 2008 en empruntant les éléments de notre constitution. Notre constitution n'a jamais été élaborée en Belgique. Dans la rédaction de cette constitution, j'en suis un. Professeur Rochab était là aussi.
Mais quelles sont les causes de l'instabilité des institutions politiques en Afrique? Doyen de la faculté de droit de l'université de Cocody en Côte d'Ivoire, le professeur Francisco Melege explique.
En RDC, vous vivez une instabilité aux frontières. Et les changements de constitution peuvent affecter effectivement le territoire, peuvent affecter la population. Mais ça ne se réduit pas à ça.
Et peut-être la solution durable au problème de coup d'État que nous connaissons là.
Vous savez, l'une des causes d'instabilité, c'est la pauvreté aussi. La faim. Ça peut être une cause déjà des changements de constitution.
Professeur et ambassadeur centrafricain Kalix Mbari pense que les causes de changements anticonstitutionnels en Afrique sont dus à l'absence de leadership fort et de l'unité face à l'influence extérieure.
Actualité internationale.
Nous sommes au Ghana. Tous les regards sont tournés vers le procès d'une Chinoise connue sous le nom de Aisha Wang. Elle est accusée d'exploitation minière illégale. Il y a 5 ans, la femme d'affaires avait été poursuivie pour les mêmes faits d'exploitation illicite de minerais et des ressources. Elle aurait exploité de manière illégale de l'or et du bois dans la région d'Ashanti.
L'invité.
Il s'agit de Richard Amalvi, président de la Fondation Brazzaville. La Fondation Brazzaville est une ONG qui regroupe quelques pays africains en marge de la Pré-COP 27 qui s'est tenue à Kinshasa cette semaine. Il nous parle du Fonds bleu pour le bassin du Congo, inventé depuis 2016 et remis aux acteurs africains pour une gestion autonome. Richard Amalvi s'entretient avec Paul Matendo Mayamba.
Richard Amalvi, bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez de la Fondation Brazzaville. C'est quoi exactement la Fondation Brazzaville?
La Fondation Brazzaville est une ONG internationale dont le siège est à Londres, qui travaille sur des problématiques africaines dans plusieurs domaines, notamment la prévention des conflits, la préservation de l'environnement, on va y revenir dans un petit moment, et des questions de santé publique, notamment avec un gros dossier sur la lutte contre le trafic de faux médicaments en Afrique.
Concrètement, en matière de préservation de l'environnement, que fait votre fondation?
Alors jusqu'à présent, nous avons accompagné le Fonds bleu pour le bassin du Congo. En réalité, la fondation a inventé ce dossier avec la République du Congo et le Royaume du Maroc lors de la COP22 à Marrakech en 2016. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo existe maintenant, il rassemble 17 pays, 16 pays du bassin du Congo et le Royaume du Maroc. Et il est l'instrument programmatique et financier de la Commission climat du bassin du Congo, voilà, dont la République du Congo est bien évidemment un membre éminent. Voilà, nous avons accompagné ce fonds et la Commission climat donc depuis 2016. Et maintenant nous passons à une nouvelle étape pour la Fondation, qui est de travailler avec l'ensemble des pays africains sur cette problématique qui concerne la réponse africaine aux enjeux climatiques, et certainement avec nous un gros travail qui concernera le renforcement des compétences africaines, c'est-à-dire le renforcement de l'expertise pour que les experts africains soient reconnus au moment des négociations et pour que les projets africains portés par les États africains mais aussi les représentants de la société civile et du secteur privé soient mieux reconnus et notamment soient en termes de gestion de projet, on dit bancable, c'est-à-dire prêt à être financé.
Qu'est-ce qui justifie votre présence à la Pré-COP 27?
Notre présence, c'est cette collaboration avec la RDC et plus particulièrement avec la vice-primature pour lancer cette consultation dont nous donnerons les résultats demain lors d'un panel avec les partenaires techniques et financiers du bassin du Congo et de la RDC. Et cela va nous projeter vers la COP où nous approfondirons les résultats de cette consultation pour comprendre ces questions dont je vous ai parlé il y a un instant.
Concrètement, quel peut être votre rapport à la lutte contre le changement climatique?
Le premier rapport depuis 2016, c'est d'avoir inventé le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, et de l'avoir remis aux acteurs africains pour qu'ils puissent le gérer en toute autonomie, en toute souveraineté. Donc maintenant, nous inventons un nouveau projet et qui sera certainement dans l'esprit de la même facture, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une appropriation totale des acteurs africains par rapport à la question de la recherche des solutions sur les enjeux climatiques.
Qui finance le Fonds Bleu ?
Ah, le Fonds Bleu est un fonds indépendant qui est géré par la Commission Climat pour le bassin du Congo. C'est une ligne de financement qui est abritée par la BDEAC, qui est une banque de développement à Brazzaville. Et ce fonds est destiné à être financé par les bailleurs de fonds internationaux qui s'intéressent à la finance climat.
Dans le pays du bassin du Congo, les populations vivent sous une pauvreté indescriptible. Qu'est-ce que peut faire la Fondation Brazzaville ?
Alors nous, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas d'action de terrain. Nous faisons de l'appui technique à ceux qui ont à mettre en œuvre. Donc en ce qui concerne le Fonds Bleu, par exemple, on retrouve une série de projets qui sont destinés à améliorer le bien-être des populations, et notamment des populations autochtones. Faire en sorte de préserver l'environnement, bien sûr. Et il y a des liens importants, par exemple, entre environnement, agriculture, sécurité alimentaire, santé, bien évidemment, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'amélioration de la qualité de l'eau, par exemple. Donc il y a beaucoup de projets. Il y a 24 programmes sectoriels qui sont dans le Fonds Bleu pour le bassin du Congo et qui sont destinés à améliorer la vie des populations dans l'ensemble des 16 pays qui sont dans le bassin hydrographique du bassin du Congo.
Charles Amalvi, merci.
Merci beaucoup, Paul.
Le président de la Fondation Brazzaville répondait aux questions de Paul Matendo Mayamba. C'est la fin de ce journal coordonné par Pierrot Elamenji, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde et Belinda Boussouma vous l'a présenté. Merci d'avoir été des nôtres.